Et on est en live. Salut Rémi, salut Ivan.
Salut
Bonjour
Gordon.
Rémi.
Waouh, bonjour tout le monde, comment ça va?
Ah, personne va te répondre, hein. Moi ça va.
Ah, non mais je parle à vous,
Ah,
je sais
tu
bien
parles à
que le chat
nous.
va pas
Eh,
répondre.
le chat, comment ça va? Est-ce que vous êtes chaud? Et puis là, personne répond. Ah, ok. Non, bah ouais, moi
Non mais
ça va.
bonjour.
Écoute, c'est un jour spécial aujourd'hui. Est-ce que tu sais pourquoi, Rémi?
Bah c'est la lutte.
Non. Mieux que ça,
Ah.
mieux que ça.
Qu'est-ce que tu vas dire?
Tu
Je
sais pas.
t'écoute.
Mon cœur est
Ah,
brisé.
c'est.
Mon cœur est brisé en mille petits
Ah.
morceaux, Rémi. C'est
C'est
mon
ton
anniversaire
anniversaire?
aujourd'hui.
Oh
Eh oui,
non!
si, si, si.
Joyeux anniversaire quand même!
Merci.
Oh là là, mettez des gâteaux dans le chat, hein,
J'étais obligé de
on veut plein de
réclamer. J'étais
gâteaux.
obligé de réclamer, si tu veux. C'est ça.
Mais
Bah,
ouais,
et
mais
du coup,
attends, j'avais carrément zappé, moi.
je voudrais remercier tous les Français d'avoir organisé ces beaux feux de joie en mon honneur partout, notamment dans les ports, dans les sites industriels, etc. Bravo, merci à tous.
Oui. D'ailleurs, grosse pensée à tous les gens qui se battent pour nous, hein, qui sont dans la rue et qui manifestent.
C'est vrai.
Et puis bah là, on va être en petit comité pour une émission un peu spéciale, puisque comme vous l'avez vu, on a un invité. Les gens dans le chat, d'ailleurs, bon bah bonjour. Hein. Comment allez-vous? J'attends pas de réponse, mais on espère que ça va bien. N'hésitez pas, bien sûr, à poser vos questions, à interagir via le texte. Hein. On va prendre en compte évidemment vos remarques et tout ça, et puis vos questions et tout et tout et tout et tout. Et puis les gens qui nous écoutent en différé, en replay. En podcast ou tous ces trucs-là, n'hésitez pas à mettre des petits pouces bleus, des étoiles et tout pour nous faire connaître, qu'on soit de plus en plus nombreux. Et puis voilà, ça fait plaisir. Bref, on est le 23 mars 2023. Il est midi 41 et vous êtes bien chez le Webosaur, les dinosaures du web. Donc moi c'est Rémi Remouk, je suis avec Corben dont c'est l'anniversaire, hein, et aujourd'hui on reçoit Ivan. Comment vas-tu, Ivan, et qui es-tu?
Bah écoute, ça va très bien, merci Rémi. Alors qui suis-je? Je suis 50% de Reka Games, un petit studio français angoumoisin, donc qui vient d'Angoulême.
Ah oui.
Et on a créé un jeu qui s'appelle Bravery and Greed. On a eu la chance que tu fasses une petite review sur le site de Corben à ce sujet et une petite interview. Donc on sent que ta question c'est plutôt pour le chat que pour toi, parce que tu commences un peu à me connaître. Je t'ai tout dévoilé déjà.
Oui.
Mais il devrait m'en rester encore un petit peu.
Mais j'ai pas tout publié.
Ah, ça,
Voilà.
t'as su garder les éléments trop croustillants.
Bah oui, évidemment. La vie privée, tout ça.
Un
Parce
vaste
que
sujet.
oui, ce qui est intéressant, c'est que, comme tu le disais, tu fais partie d'une toute petite équipe de deux personnes et vous avez créé un jeu vidéo de A à Z à deux. Alors, bien sûr, vous avez eu aussi cette chance d'être édité, donc d'être un petit peu encadré et tout ça. Je vais te poser une question un peu basique, mais voilà, on aime bien commencer par le début, hein, avec les Webosaur. Et savoir un petit peu ce qui t'a amené à faire du jeu vidéo et pourquoi vous avez aussi commencé ce jeu-là en particulier, la petite étincelle qui vous a fait dire, tiens, on va faire ce jeu ensemble, c'est parti.
Alors, ce qui m'a amené aux jeux vidéo, moi déjà à la base, bon, comme beaucoup, hein, j'aime ça depuis longtemps. J'ai commencé assez tôt. Quand j'avais 7 ans, j'avais un petit Atari ST et des cassettes de disquettes à l'époque.
Eh
Et
oui.
donc, j'ai dû faire mon premier pixel art un peu là-dessus parce que j'adorais dessiner. Et puis, avec la souris ou même la trackball de l'époque, il y avait des petits logiciels assez sympathiques.
Ouais.
Et puis très vite j'ai arrêté parce que je sais pas quel âge t'as Rémi ou toi Corben, mais on doit, enfin je pense que
41.
Corben est... ouais ben bah voilà, on vient de faire, moi je les ai fait il y a 10 jours les miens, mais 41 aussi quoi,
Bah, bon
donc
anniversaire en retard
bah
alors.
merci à toi et
Donc
je te
année
retourne par chez.
1982, hein, les meilleurs de l'univers.
Exactement, exactement.
Je me sens un peu exclu là, mais c'est
C'est
pas grave, continuez, continuez.
vrai
que Rémi est beaucoup plus vieux que nous.
que ça se voit, oui. Mais donc, oui, donc, je sais pas pour toi, Corben, mais moi à l'époque, tout ce qui était ordinateur, jeux vidéo, c'était relativement diabolisé, voire ça, oui, diabolisé littéralement, ça rendait satanique comme les jeux de rôle, on le sait tous.
Oui, c'est vrai.
Donc, on m'a dit, ouais, c'est plutôt de faire une vraie carrière, donc. Bon, ça va, ça se passait plutôt bien dans les cours, donc j'ai fait un bac S, etc. Et puis après, je me suis dit, bon, j'aime les langues, je vais faire de l'anglais. Donc rien à voir.
Ah ouais.
Et en faisant de l'anglais, au fur et à mesure, ça m'a amené un peu à travailler à l'étranger. Et à un moment, je me suis retrouvé testeur chez Square Enix à Londres. sur Final Fantasy XIII et Frontmission Evolved. Et du coup, je me suis rendu compte que le jeu vidéo, ça, c'est une industrie comme une autre, voire assez profitable, qui n'a pas à rougir par rapport aux autres carrières, et qu'il y a effectivement moyen de gagner sa vie là-dedans.
Mais t'étais quand même attiré par ça, parce que t'as été chez Square Enix, c'est-à-dire t'as postulé chez eux, et du coup tu voulais quand même être dans le secteur du jeu vidéo, quoi, même si...
Il y avait un peu de ça, ouais. Mais je t'avoue que c'était du bon vieux piston, enfin piston entre guillemets, parce que je t'avoue que le métier de QA tester, c'est un petit peu le bas de la chaîne alimentaire dans le développement oui. de jeux vidéo. Dès qu'il y a des retards ou des problèmes, c'est eux qui doivent plonger et encaisser. Et en fait, j'étais dans le QA de localisation, c'est-à-dire que ça restait dans le domaine de la traduction, qui était mon domaine à moi. J'étais plus ou moins dans la traduction et l'enseignement du français.
Ouais.
Et donc, du coup, ça avait du sens. Parce que même si j'en faisais pas mon métier, j'aimais toujours les jeux vidéo, j'aimais bien y jouer. Je me suis dit pourquoi pas travailler dedans et mettre un pied dans la porte. J'avoue que secrètement, je me disais peut-être que si ça se passait bien, je pourrais peut-être devenir traducteur pour une boîte ou en tout cas avoir d'autres expériences. J'ai quand même continué à travailler dans la traduction quelques années. Et puis après, en 2012, au final, je me suis dit non, mais en fait, le jeu vidéo, ça m'intéresse, je vais essayer d'en faire. J'avais un pote qui était sound designer chez Ubisoft, qui avait fait une école qui s'appelle Langemin. Qui est la seule formation publique, donc c'est, à moins de faire du contrôle terminal, ça coûte pas 10 000 balles l'année, quoi.
D'accord.
Donc, c'est une école de jeux vidéo, quoi, pour...
C'est une formation ouverte à n'importe quelle licence qui propose entre autres un master de création de jeux vidéo. L'intérêt de l'école, c'est qu'il y a plusieurs spécialisations, donc moi j'ai fait dans le graphisme. Mais il y a game design, ergonomie, gestion de projet, programmation, etc. Et je dirais que la force de l'école, ça a été surtout que c'est du concret, on fait du projet dès le début relativement et on apprend à travailler avec les autres disciplines.
Et elle existe toujours cette école ou...
Elle existe toujours, elle c'est vient bon. Récemment de... Elle est à Angoulême donc, c'est pour ça que moi à la base je suis pas angoumoisin. Hein. Je suis tombé sous le charme de la ville et c'est une ville assez active en termes de jeux vidéo de par sûrement cette école et aussi le fait que ce soit une ville de l'image et de ouais. l'animation. Donc il y a quand même des petits studios sympas. On a quoi ? On a récemment un studio qui a sorti Ixion. Je sais pas si vous connaissez ce jeu.
Bah Rémi peut-être, mais moi non.
Et juste avant, ils avaient fait Warhammer Mechanicus.
Ah oui.
D'accord.
Donc, il y a du talent par ici par rapport à la taille de la ville. Ouais, ça, c'est plutôt pas mal en création, en création d'images. Et on a de la bonne bière aussi.
Ah bon, comme partout. Hein.
Non, on a la débauche. La débauche, c'est une bière qui s'exporte extrêmement bien. Et vous en avez peut-être trouvé en supermarché ou en caviste ou autre.
Je ferai attention.
On regardera, ouais.
C'est fait chez nous.
Trop bien. Et du coup, qu'est-ce qui t'a amené avec ton collègue, hein, vous vous êtes rencontrés à l'école, si je dis pas de bêtises. Vous avez, je pense, bossé ensemble sur des projets, puis ensuite, vous avez décidé de monter celui-ci. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu plus comment ça s'est passé, et surtout, ouais, pourquoi ce jeu-là, ce gameplay, etc.
Alors... ce qui s'est passé, c'est que donc on a fait notre master ensemble. On avait donc, comme tu l'as dit, on a bossé sur un projet en commun. On a un petit peu travaillé ensemble. On a bien apprécié de travailler ensemble. Et donc, on a fait des stages à la fin de ce master. Et du coup, on s'est demandé qu'est-ce qui se passe après. Déjà, les stages. Moi, j'ai eu un petit contretemps en ce qui concerne mon stage. Je devais le faire avec Tore Blichstadt, qui était notre parrain de promo, qui est le papa de Hitman à la base.
Ah oui.
Ah, okay.
C'est aussi ce qui est bien dans Langemin, c'est que j'ai rencontré pas mal de vétérans du jeu vidéo et ça fait plaisir, ouais. Surtout à mon âge, tu vois, par exemple, dans un autre parrain de promo, on avait Patrice Desilets, qui est lui le papa de Assassin's Creed, qui avait fait donc Prince of Persia, Sands of Time, et qui maintenant a fait son propre studio Panache Games. Il y avait Gary Carr aussi, donc un des vétérans de Core, qui je crois qu'il avait bossé à Core Design et après à Bullfrog, donc
Oui.
il avait bossé à Lionhead, après il avait suivi Peter Molineux tout le temps. Et maintenant, il fait Two Point Hospital, etc. Donc, lui aussi, ça me fait rire parce que il y a 10 ans, quand j'étais encore à l'Engmin, il y avait les petits apéros de fin de diplôme, etc., quoi. Et on lui disait, mais Gary, pourquoi tu fais pas des jeux indés? Pourquoi? Et puis finalement, c'est ce qu'il a fait, quoi. Je pense pas que ce soit une bande d'étudiants français qui l'ait convaincu de s'y remettre, mais en tout cas, ça. C'est juste après ça qu'il a commencé à créer son Two Point Studios et qu'il a lancé Two Point Hospital. Et après
C'est
Two
grâce à
Point
vous, j'en suis
Hospital.
sûr, faut dire
Et
ça.
oui.
Ça a dû jouer, je pense. Hein.
Ça l'a fait réfléchir.
D'ailleurs, Gary Carr, on avait des bons jeux de mots sur lui parce que son nom, ça faisait Ricard, quoi. Donc on l'a
D'accord.
initié, quoi.
En France quand même. Ouais. Bien marqué.
Donc, en tout cas, oui, pour moi, par exemple, il avait bossé sur des jeux de mon enfance sur Atari ST, donc rencontrer ses idoles comme ça. On avait
Bah, c'est vrai que c'est
même eu un
cool.
petit pitch de Jordan Mechner, le papa de Prince of Persia, qui maintenant vit en France et fait de la BD, il me semble.
Ok.
Mais donc, à l'issue de ce stage, parce que désolé, je diverge un peu.
Non, pas de souci, pas de souci.
À la fin de ce stage, on s'est dit, bon, qu'est-ce qu'on fait? Moi, j'avais déjà bossé quelques années en entreprise, même si j'avais eu des bonnes expériences, je me suis dit, est-ce que j'ai vraiment envie de rebosser en entreprise, d'être entre guillemets un drone dans une machine immense? Ou est-ce qu'on pourrait essayer de faire quelque chose? On avait été marqué par pas mal de bons petits jeux indés, c'était quand même, c'était 2014-2015, donc. Il y a eu un petit revival des jeux indépendants à ce moment-là. On s'est dit, il y a quand même des bonnes idées qui se font chez les indés qu'on ne voit pas dans les autres, dans les projets un peu plus ambitieux, on va dire. Et on s'est dit, ouais, enfin, lui, pour sa part, il avait aussi fait un stage dans une boîte de jeux mobiles. Et bon, même si c'est du boulot, c'était peut-être pas forcément comme ça qu'il imaginait la création vidéoludique pour lui. Et on s'est dit, bon, bah, pourquoi pas tenter notre truc? Donc moi j'ai interrompu, j'avais un petit des petits CDD à l'issue de mon stage dans une boîte d'anime, mais bon, je me suis dit c'est quand même on va bosser ensemble à fond là-dessus, on s'y met. Et nous voilà, 7 ans plus tard.
Ok.
Ouais, 7 ans plus tard. Et entre
C'est un peu fou, ouais.
l'idée de base, qui est donc ce gameplay 2D plateforme baston dans des environnements générés, machin et tout ça, entre l'idée de base que vous aviez eue et ce qui est sorti à la fin, qu'est-ce qui a pu changer? Qu'est-ce qui s'est passé? Comment vous partez d'une idée pour vraiment savoir où vous allez au final?
Bah clairement, comme tu dis, oui, déjà, oui, je vais aussi répondre à la question comment est venue l'idée à la base de faire un jeu de type comme Bravery and Grid. À la base, avant, je faisais de la musique, et quand je faisais de la musique, je voulais écrire des chansons que j'avais envie d'écouter, mais que je pouvais entendre nulle part. Bah, pour le jeu vidéo, ça a été un peu pareil. Ça a été j'avais envie de jouer à un jeu qui n'existait pas à l'époque et qui fort heureusement n'existe pas encore réellement jusqu'à ce qu'on l'ait sorti quoi. Et je voulais un jeu déjà qui soit roguelite parce que on a été assez marqué par un jeu qui s'appelle Risk of Rain. Je sais pas si ça vous parle. À
Non.
l'époque, ça avait bien fonctionné. On s'est dit et puis Spelunky aussi. Ce côté donc. Pour résumer, je ne sais pas si les gens savent ce qu'est un roguelike ou un roguelite, surtout que c'est des termes, c'est un
Vas-y,
peu comme
vas-y,
le punk.
explique.
Il y a pas mal de la définition est changeante en fonction de qui te l'a dit. Mais à la base, les roguelikes, c'est des très vieux jeux qui étaient même en acier, qui n'avaient pas de graphisme. Et l'intérêt de ces jeux, c'était souvent l'exploration de donjons. Donc, l'exploration de donjons, c'était. L'intérêt, c'était surtout de la génération aléatoire. Donc, jamais deux fois la même partie. Des jeux souvent très difficiles où on mourait souvent, mais l'intérêt c'était que comme il y avait cette rejouabilité infinie, on acceptait le côté très punitif du jeu. C'était souvent du tour par tour, c'était souvent donc de l'exploration de donjons caractérisée aussi par une abondance d'interactions. On pouvait faire des trucs un peu fous comme manger des ennemis et voir ce que ça faisait. Ces jeux, c'est des jeux des années 80, c'est des jeux qui c'était assez niche. Mais ensuite, il y a commencé à avoir des game designers qui ont décidé de prendre certains aspects, donc la mort permanente, la génération aléatoire, et le fait, par exemple, aussi débloquer du contenu. En fait, oui, non, si je veux vraiment, je veux être très exact, Diablo 1 était censé être un roguelike. C'est-à-dire qu'il était censé être joué tour par tour, c'était une exploration de donjon. Dans Diablo 1, si tu remarques bien, tu verras que le layout des donjons, bon, il y a certains, par exemple, les boss sont toujours au même endroit, etc. Mais il y a des parties générées aléatoirement, il y a le côté gestion d'inventaire, items, loot, etc. Et en fait, si Diablo 1 a lancé l'action RPG, c'était un accident, en fait. C'est-à-dire, ils étaient dans une séance de debug et tout simplement. Je crois qu'ils étaient en mode, ils faisaient passer les tours automatiquement pour pouvoir tester des choses. Et puis bon, bah, il y a un moment, ils étaient à 30 tours par seconde. Il a pris son perso, il a cliqué sur squelette, il a vu le perso marcher jusqu'au squelette, lui mettre un coup d'épée et l'éclater. Il a fait, mais c'est génial. Et du coup, il a fait, bah, on va le faire en temps réel, en fait. Mais à la base, Diablo, c'était censé être du tour par tour, tu aurais
Ah
cliqué pour te
ouais.
placer, pour taper,
Ah, je sais pas
un
ça.
peu que. Et donc, du coup, bah, c'est comme ça que ça a lancé l'action RPG. Et donc, pour en revenir au revival du roguelite, c'est plus ou moins donc le fait de prendre. C'est plus dans une optique de fusion, donc, où tu prends un gameplay que tu connais. Par exemple, Spelunky, c'est un peu une sorte de Super Mario slash Rick Dangerous. Enfin, Rick Dangerous, c'est une très vieille référence, mais c'est une sorte d'Indiana Jones, Diane Retry, impardonnable. Et tu rajoutes à ça de la génération aléatoire et un petit côté très punitif, mais là où un Die and Retry c'était de la mémorisation, là ça devient connaître le système de jeu en fait, et
Ouais.
arriver à le gamer, à le maîtriser et à tirer meilleure partie des cartes qui te sont données à chaque fois que tu relances une partie.
Et découvrir les nouvelles interactions possibles, tout le système et toute l'évolution du jeu au fur et à mesure. Plus on va loin, en fait, plus il y a des nouvelles choses.
Exactement, exactement. Il y a aussi de la motivation à moyen et long terme dans le fait de débloquer des choses ou des upgrades méta.
Donc ça, tout ça, cet aspect-là, ça vous plaisait à fond, mais il fallait coller le gameplay qui était un peu plus original ou différent de ce qui existait déjà.
Exactement. Donc moi, ce qui me plaisait dans les roguelites, je te l'ai dit, mais ce qui me déplaisait, c'est que je trouvais que ça manquait de gameplay un peu réactif de style jeu de combat. Faut savoir que bon, par exemple, Dead Cells n'était pas encore sorti ou des choses comme ça, quoi. Et aussi bah, le Théo, donc l'autre moitié de Reka Games, c'est quand même un joueur de jeu de baston assez sérieux, quoi, qui se fait tous les Stunfest chaque année. Moi, j'appelle un peu le magicien de la frame data, quoi.
Ok.
Et quand on avait bossé avec lui, d'ailleurs, on avait bossé sur un petit jeu de baston ensemble où il avait envie de bosser des outils pour faire du jeu de baston. Donc, on était un petit peu intéressé par ce côté, la richesse d'un jeu de baston avec tous les mouvements, les possibilités, la réactivité et le fait de faire un roguelite. Aussi, j'avais envie de jouer en multijoueur. Je trouve que c'est quelque chose qui manquait énormément, même maintenant, même encore, hein, j'ai envie de dire, tu veux te faire un bon roguelite, il y en a plein.
Ouais.
Tu veux te faire un bon roguelite multijoueur, il y en a moins. Donc c'est un peu ça qui nous a motivés. Et bah, après, on s'est posé la question, il y a eu pas mal d'itérations dans le jeu. Au début, on était en mode, oui, on fait des quarts de cercle pour faire des Hadouken ou des trucs comme
Oui,
ça.
carrément, ouais.
Ouais, et puis après, on s'est dit, mais en fait, il y a quand même des petites contraintes liées au platforming. Dans un jeu de combat normal, t'as un seul adversaire en général, tu lui fais toujours face. Donc gauche-droite, ton perso se retourne automatiquement, t'es pas censé sauter sur des plateformes ou faire des sauts. Un des seuls jeux qui mélange bien le platforming avec le côté jeu de combat, tu vas me le dire, Rémi, je le sens que tu l'as sur le bout des lèvres.
Bruce.
Exactement. Exactement. Donc ça a aussi été une influence. Si on devait résumer le jeu, ça serait un peu une sorte de roguelite qui mélange Smash Bros. Et Gauntlet, qui est un vieux jeu sur Atari, je sais pas si ça vous parle, et qui a été en fait, il a été
Smash
refait
Bros.
justement en 2014 par le studio Café Magica, je sais pas si ça vous parle aussi, un
Ouais,
petit
ouais.
jeu très sympa en multi. Et bah, je voulais ce côté un petit peu heroic fantasy, un peu comme Donjon d'Hellebuck,
Ah
très
oui.
classique, un peu marrant. Donjon d'Hellebuck qui est sorti aussi entre-temps d'ailleurs, avec un petit tactical assez sympa, quoi. Donc voilà, c'est de là d'où c'est parti. Et à partir de là, il y avait aussi des petits défis techniques en termes de. On voulait faire du pixel art. Enfin, moi, je voulais faire du pixel art, mais je voulais faire du pixel art avec un petit peu de 3D, entre guillemets. C'est-à-dire que je voulais qu'il y ait du normal mapping. Le normal mapping, c'est une texture qui simule du relief sur de la 2D pour que ça réagisse bien aux éclairages. Et ça nous a permis un peu d'avoir ce petit côté qu'on retrouve dans pas beaucoup de jeux en pixel art, d'avoir un éclairage un peu dynamique.
Ouais.
Et ça, c'est
Et
le hasard
ouais.
qui a bien fait les choses. C'est-à-dire qu'il y avait un mec qui a fait un logiciel qui s'appelait Sprite Delight. Et c'était justement donc 2014-2015. Et c'est vraiment tombé pile poil. C'est-à-dire qu'il a fait un logiciel qui justement sert à créer des normal maps à partir de sprites en lisant le sprite et en simulant le volume de la forme qu'il reconnaît, plus ou moins. Et ça marche plutôt pas mal. Et il faisait son Kickstarter à ce moment-là et il avait besoin d'animation et de sprites pour ça. Et on s'est rencontrés comme ça par hasard. Peu de gens utilisent ce logiciel, donc je vais faire un peu la promo. Sprite Delight, c'est vraiment bien. C'est très peu connu, mais ça nous a bien aidé dans notre projet en tout cas.
Ouais, mais t'as
Et puis
raison.
ça.
Vas-y, Rémi.
Ah non, j'allais dire, ça apporte une patte effectivement un peu différente, parce qu'on a déjà vu des mélanges de 2D, 3D, etc. Et si on pense au vieux Doom, ou quoi, les personnages et les éléments en 2D sont vraiment tout plats. Et donc là, ça permet d'intégrer les choses de manière un peu plus naturelle. On a quand même des personnages qui sont en 2D, qui sont des sprites, mais il y a une impression de volume et ils sont mieux intégrés avec les lumières. Et ça rend le truc plus moderne, en fait. Ça,
Ouais, c'est ça,
on
c'est
a
plus
toujours le côté
actuel.
pixel art, mais moderne.
Ouais. C'est ce qu'on appelle du high bit, c'est-à-dire c'est tous ces nouveaux titres en pixel art qui essaient de quand même rajouter des choses un peu modernes, un peu post-process, tu verras un peu de bloom, le blanc, les
Oui,
blancs qui
voilà.
brillent un peu, qui bavent. On est plus toujours dans le pixel parfait, c'est-à-dire qui dépasse pas de sa grille. C'est du pixel parfait, mais avec de l'effet un petit peu autour, quoi.
Ouais.
Ça fait penser au jeu. Mince, j'ai oublié les noms, mais qui sont sortis sur Switch et tout, là, les RPG de chez.
Ah oui, Octopath
Voilà, Octopath Traveler, par
Traveler. Ils
exemple.
utilisent la vraie 3D, mais ils utilisent en effet de la profondeur de champ, du bloom, et
Ouais.
ça donne un petit côté à ce pixel art que tu ne retrouves pas ailleurs, en effet.
C'est vraiment cool, quoi. C'est très joli.
J'avais une question, moi, du coup. Donc là, t'as parlé un peu de la genèse de l'idée du jeu, etc. Mais moi, je sais pas comment on fait pour développer un jeu de A à Z. C'est quoi les étapes, en fait, pour créer un jeu, par quelles étapes on passe, combien de temps ça prend, qui a besoin de travailler avec vous, enfin,
Alors,
comment ça se
combien de temps
déroule?
ça prend? En théorie, c'est pas censé prendre 7 ans, normalement.
Ouais. C'est jamais censé prendre, ça déborde toujours, mais bon.
Après, bon, t'as des contre-exemples, hein. C'est vraiment des succès, mais des jeux comme Duke Nukem Forever, en effet, bah, il a mis Forever avant d'arriver, quoi. Il
Ouais, bah
portait bien son titre.
ouais.
Mais il y a aussi des pièges là-dedans. Quand un développement prend plus de temps que ça devrait prendre, t'as toujours envie d'être à la dernière mode, de tout bouleverser, de tout changer.
Ah bah oui, forcément, parce
C'est
que au bout de 7 ans, ton jeu que tu as commencé à 7 ans, il est déjà dépassé quelque part graphiquement et technologiquement. C'est un peu ça, ouais.
l'intérêt du pixel art, c'est que ça vieillit plutôt bien. Tu regarderas les vieux
Oui.
titres sur Super NES, ça marche beaucoup mieux que les vieux titres sur PS1, quoi. En termes de vieillesse,
C'est vrai, c'est
vaut
vrai.
mieux un bon pixel art qu'une mauvaise 3D, de manière générale.
Ouais, ça c'est vrai.
C'est vrai. Et donc les étapes, alors, vas-y, dis-moi.
Alors, bah, les étapes, si tu fais ça bien dans les règles, tu fais une idée, tu fais un game design document. Donc, tu vas faire un document qui va un peu expliquer ta cible, l'intérêt du gameplay, les diverses mécaniques décrites brièvement, comment ça se compare à la concurrence, et éventuellement même si c'est à destination d'un éditeur, tu vas peut-être même faire un petit pitch marketing sur
D'accord, ouais.
les points forts de comment vendre le jeu. Ensuite, si tu es vraiment à la recherche d'un éditeur, tu vas essayer de faire une tranche verticale, c'est-à-dire un moment court du jeu, mais qui se rapproche le plus de la qualité finale que tu veux obtenir.
Ah oui.
Pour expliquer un peu, quand on parle de tranche verticale, c'est vous imaginez un gâteau qui a toutes ses couches. Bah là, vous voulez prendre une part du gâteau où on voit vraiment toutes les couches.
Ah,
donc ça donne
ouais.
très représentatif du jeu. Et c'est pas genre, tiens, voici la couche du bas. Parce que des fois, tu auras tendance à te donner le premier niveau, par exemple. Sauf que le premier niveau, bah, souvent, t'as pas, ton personnage, il a pas toutes ses capacités. C'est un niveau facile, etc. Donc, quand on parle de vertical slice.
Ouais, c'est comme faire le jeu de A à Z, mais juste pour un tout petit bout qui dure une minute, quoi.
C'est ça. C'est une démo, mais qui est censée démontrer vraiment tout le jeu. Donc, ça peut être très long à faire, parce que des fois, t'as un jeu qui propose plein de choses, et au final, tu sors qu'un niveau. Mais une fois que t'as fait ça, derrière, tu vas pouvoir justement faire tous les autres. Enfin, t'as quasiment tous les éléments pour.
Même j'oubliais avant ce côté vertical slice, en général tu vas faire du prototyping prototyping, après chacun sa sauce. T'as des game designers purs, ils vont faire leur jeu en papier, si c'est un jeu de stratégie avec des cartes ou des trucs comme ça. Au final, si c'est un Slay the Spire, tu pourrais le faire plus ou moins en papier si t'as envie, pour voir si ça marche et si c'est marrant.
Ouais.
Et puis si les protos fonctionnent, oui, tu pousses l'idée un peu plus loin.
Et peut-être des jeux qui vont partir plus du scénario, qui vont avoir un gameplay classique, genre un RPG à l'ancienne. Mmh. Et en fait, bah, c'est surtout le scénario qui va être écrit, retravaillé, les embranchements. Mmh. Et le gameplay en lui-même, il est un petit peu accessoire, quoi.
Clairement. Si tu prends les jeux Quantic Dream, sais que c'est plus ou moins des cutscenes. Et c'est interactif et la narration est excellente. Mais c'est sûr que tu vas pas te faire des ampoules avec ces jeux-là, quoi.
C'est vrai. Donc, pardon, t'as coupé, tu étais en train d'expliquer.
Que nous, là, je t'ai un peu expliqué comment ça se passe quand t'es un bon studio bien organisé avec une bonne structure. Après, nous, bon, on est organisé aussi, mais disons qu'il y a eu tout un truc organique quand même qui s'est fait avec l'étendue du jeu, le scope, qui a quand même pas mal évolué au fil du temps. Il y a aussi le fait de faire un jeu multijoueur, c'est quand même pas. C'est pas négligeable.
Ouais.
Ensuite, il y a aussi tout simplement la quantité de contenu, quoi. Même si il y a moyen d'optimiser, etc., il y a des milliers de sprites dans le jeu, il y a des milliers d'effets sonores. On a plus de sons que dans Diablo 1 ou 2, par exemple.
Ouais.
C'est deux personnes. Et bon, je sais pas combien il y a de milliers de lignes de code, mais
Tu parles du multijoueur, mais il faut préciser quand même pour les gens qui connaissent pas le jeu, c'est du multijoueur en ligne aussi. Donc il faut pouvoir. Le jeu étant sorti à la fois sur Switch, sur PC, etc. etc. Bah, c'est quand même du code assez compliqué à mettre en place parce qu'il faut que ce soit réactif, c'est quand même un jeu d'action et tout ça. Donc c'est pas juste. On peut brancher une manette de plus et il y a un personnage de plus. C'est.
Ouais, bien sûr. Ça, c'est vraiment un peu le nerf de la guerre. Ça influence beaucoup. Par exemple, le coût des portages console. C'est rare que tu puisses faire porter sur console toi-même, puisqu'il faut avoir les dev kits de chaque console. Pour avoir les dev kits, il faut les demander au constructeur, il faut les acheter. Ça coûte plus cher qu'une PS5, hein, c'est sûr.
Ah ouais.
Et puis il faut aussi, en tant que programmeur, connaître l'architecture de chaque console, savoir les points forts, les points faibles, savoir tirer les bénéfices du hardware. Ensuite, moi, comme j'étais dans le test, je peux te dire que chaque constructeur, fabricant de console a chacun son petit cahier des charges. Donc ça peut être TRC, load check, etc. Et donc le jeu ne sort pas tant que ça coche pas toutes les cases. Il y a une petite marge d'erreur, mais il faut en général que ça coche toutes les cases. Ça peut être des trucs comme un temps de chargement doit durer au minimum 3 secondes et au maximum 15 secondes, tu vois. Le jeu doit toujours être à plus de X FPS et ne doit pas varier entre temps et temps, jusqu'à juste des problèmes d'affichage standard, quoi.
D'accord.
Mais il y a ce côté standardisé sur la console qui fait que tout doit être streamliné. T'as un millier de studios qui produisent des jeux, mais tous les jeux doivent se comporter pareil sur le même médium.
Et alors, quand t'as ton cahier des charges, là, tu fais comment? Faut recruter une équipe ou... Enfin, vous étiez combien, là, à bosser dessus?
Alors, Le cahier des charges, c'est uniquement pour le portage console, et le portage console, c'est pas nous qui nous en...
Ah non, non, mais moi, je parlais au début, enfin, je sais pas comment ça s'appelle, mais t'as dit le document dans lequel tu...
Game design. Ouais. Ah bah, une fois que tu sais ce que tu dois faire, tu te retrousses les manches et c'est parti, quoi.
Ouais, mais il faut de l'argent pour payer les gens, tu peux pas vivre d'amour et d'eau fraîche pendant ce temps.
Bah, nous, tu vois, on a vécu un peu d'amour et d'eau fraîche.
D'accord.
En tout cas, d'amour du jeu vidéo, et c'est autant dire que moi, la retraite, je devrais manifester, mais je peux l'oublier, quoi.
Ouais, bah ouais.
Et surtout qu'en plus, je travaillais à l'étranger avant. Mais bon, bref, je vais pas m'attarder là-dessus. Oui, en effet, ça a été des années à manger des pâtes un peu, ouais. Mais bah, c'est un peu, je crois que j'imagine que c'est ça, être passionné, ouais. C'est
Ah bah oui.
tout un de côté, et puis faire ça, quoi.
Mais vous étiez deux à bosser dessus ou vous étiez plus
On
nombreux?
est deux. On est
Deux,
deux.
ah ouais,
Après,
d'accord.
on a aussi un compositeur qui nous a fait la BO, mais bon, on va dire que
Oui.
c'est différent, quoi.
Ouais.
Le cœur de l'ouvrage, ça a été fait à deux. Donc moi, je me suis occupé de tout ce qui était graphisme et effets sonores. Toutes les lignes de code, c'est mon partenaire. Et puis le game design, ce qui est bien quand t'es deux, c'est que tu fais pas de réunion, c'est un dialogue. Donc ça peut changer assez vite, assez rapidement. On discute d'un point et ça avance.
Mais quand tu dis
C'est
les lignes de code,
l'avantage.
les lignes de code, c'est notre partenaire. C'est-à-dire que vous avez pas codé le jeu?
Non, c'est mon partenaire, c'est-à-dire mon binôme, si tu
Ah,
préfères.
non, je
C'est
pensais que tu parlais de la
le
boîte qui avait fait
codeur.
les portages après sur les consoles et tout.
Alors ça, c'est notre éditeur, mais on l'a
Ah,
rencontré uniquement en 2018. On avait déjà
ok.
bossé le jeu pendant un bon moment.
J'avais pas
En
compris.
fait, ce qui s'est passé pour nous, et bon, ce qui est recommandé de faire quand tu es indépendant, c'est d'essayer de construire une communauté et éventuellement de trouver un éditeur. Donc ce qui se passait, c'est que dès que le jeu a commencé à être un peu sympa, on s'est mis sur nos réseaux sociaux et on a commencé à essayer de poster des vidéos de gameplay et des petits extraits, des petits trucs marrants, histoire d'attirer la communauté et de susciter de l'intérêt. Et le but, en général, quand tu fais ça, bon, moi, je n'ai pas de formation marketing ou quoi que ce soit, hein,
Ouais.
mais bon, on est à une époque où il faut un petit peu être autodidacte et un peu tout apprendre soi-même. Donc le but, c'était de faire un schéma de conversion, c'est-à-dire d'amener les gens à regarder nos réseaux sociaux et ensuite de les faire atterrir en ce qui nous concerne dans une newsletter. Mais s'il y a des indés qui nous regardent, en général, faut essayer de créer la page Steam le plus tôt possible et d'essayer de rediriger tout le trafic direct sur la page Steam pour générer des wishlists
Ah
ou au
bah oui.
moins des follow. C'est important de penser à la sortie du jeu. Un an avant, 6 mois, enfin, dès le plus tôt possible, quoi. Dès que tu peux montrer quelque chose, dès que tu peux avoir de l'attraction, dès que tu peux sortir une démo ou attirer des gens, c'est très important. Donc, pour en revenir à ce que je disais en 2018, au final, alors on n'a pas trouvé d'éditeur, c'est les éditeurs qui venaient nous voir en général. Et
D'accord. Grâce à ce que vous avez mis en ligne sur Steam et tout ça,
Voilà.
quoi. Ouais.
Je sais pas si ça fonctionne toujours comme ça, mais souvent c'est comme ça. C'est-à-dire, tu te feras remarquer plus que tu iras démarcher, hein, en général.
D'accord.
Et s'ils sont intéressés, ils te contactent et ils disent, bon, bah, je sens qu'il y a du potentiel, est-ce qu'on peut en discuter un peu? Et est-ce que vous pouvez m'envoyer une démo ou un exé? On signe une NDA, donc Non-Disclosure Agreement. Et donc une clause de confidentialité. Et à partir de là, il y a des négociations qui s'entament. Et puis après, un contrat est signé si tout se passe bien. Et on voit qui fournit quoi comme service et quoi comme contrepartie.
D'accord.
En ce qui nous concerne, donc, on a édité chez Team 17, c'est le papa des Worms, Alien Breed et pas mal d'autres jeux, qui ont sorti pas mal de jeux cultes auxquels vous avez peut-être joué dans les années 90. Et depuis, récemment, se reconvertit plus dans le publishing, c'est-à-dire l'édition d'autres jeux vidéo.
Ah oui.
Ils ont sorti des trucs assez connus quand même. Ils ont sorti les Overcooked, ils ont sorti Blasphemous, Call of Your Friends. Ils ont pas mal de trucs. Ouais.
Et alors comment ça s'est passé là le lancement? Ça s'est bien passé, les gens étaient à fond, c'était galère, ça s'est passé comment?
Ça aurait pu mieux se passer.
Ah bon?
Après, je t'avoue, le fait est qu'on n'est quand même pas forcément, avec le recul, on n'est quand même peut-être pas forcément sorti dans la meilleure période de l'année. On est sorti entre un Pokémon et un God of War.
Ouais.
Et puis la fin de l'année, c'est toujours une période un petit peu chargée en termes de sortie, etc.
Bien sûr.
Donc, ouais, y a eu son petit effet, il y a de l'attraction, etc. Tu vois, bon, après, je suis pas forcément en mesure de communiquer des chiffres de vente précis,
Oh,
mais le jeu fonctionne, tu vois, il se vend.
ouais.
Mais je pense qu'il pourrait trouver un public encore un peu plus vaste, dans le sens où bah, je peux pas donner de chiffres précis, mais si tu compares les wishlists et ce qui s'est passé en termes de vente, tu sais qu'il y a, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui sont très intéressés par le jeu et que apparemment ça, je sais pas, c'est passé un petit peu à la trappe. En fait, le fait est que moi, je peux parler de la sortie sur Steam principalement, mais il y a aussi un truc, c'est que sur une plateforme comme Steam, il y a un algorithme de visibilité qui est quand même assez primordial.
Ouais.
Et quand tu sors ton jeu dès le début, alors par exemple, quand tu es un développeur indé, c'est très important d'avoir un minimum de 10 reviews le plus tôt possible, dans le meilleur des cas le premier jour, parce que ça te donne un boost de visibilité. En fait, il y a un effet boule de neige qui s'opère dans Steam, et le fait est que si tu as un bon démarrage, ça va continuer à tourner comme ça. Et si pour X raison tu as un démarrage qui n'est pas exceptionnel, par exemple, nous aussi on a eu un petit problème où on n'a pas pu mettre de launch discount.
D'accord.
Et la plus...
Réduire le lancement, quoi.
Exactement, je te remercie de traduire, c'est vrai que on est quand même dans un domaine assez anglicisé, le développement de jeux vidéo. Et bah, le fait, tu vois, même si c'est que 10% et que ça change pas grand-chose au prix, que tu économises peut-être 1 ou 2 euros, tu vois,
Ouais.
le fait est que voir ton prix en vert et dans les promos, ça change tout. Donc, si t'as pas ça dès le début et que ça t'entraîne pas l'effet boule de neige qui fait que, en plus, ça te permet de continuer les ventes, bah, tu peux te faire un petit peu noyer par toutes les sorties. Le fait est que le nombre de sorties sur Steam augmente énormément aussi d'année en année. Là, je crois qu'on doit être à peut-être 5 000 ou 7 000 jeux par an qui sortent
Ah ouais, c'est
sur
énorme.
Steam.
Ouais.
Énormément de jeux qui ne trouveront jamais leur public, mais
C'est saturé, quoi.
tu as des lois Pareto là-dedans, tu vois,
Oui.
t'as du top 1% qui doit faire je sais pas combien de revenus. Enfin, ouais, ça. Il y a les chiffres, il y a moyen de se creuser la tête là-dedans,
Ouais,
mais
c'est
c'est
ça
vrai
qui est
que
chaud, c'est qu'il faut penser au marketing, à la publicité, il y a du il y a tout un aspect à pas négliger, quoi. Parce que
ah, faux.
c'est bien de faire un jeu, mais c'est encore mieux quand tu le vends.
Faut pas avoir peur de toucher à tout, et en
Ouais.
effet, oui, c'est pour les trucs que tu sais pas faire, soit avoir de l'argent, mais c'est difficile quand c'est ton premier projet. Et puis c'est aussi difficile d'investir quand tu sais pas combien ça va te rapporter, quoi.
Mais ton éditeur, il est là pour t'aider pour ce genre de truc.
L'éditeur est là pour aider, en effet, ce qu'ils ont fait, eux, principalement, après, bon, les termes du contrat, ça se négocie d'une personne à l'autre, il y en a qui se font financer leur développement, d'autres non, ça dépend. En ce qui nous concerne, l'éditeur a été très utile pour tout ce qui est localisation, QA, donc
Ouais.
assurance qualité, pour vraiment s'assurer que le jeu soit le mieux possible, le meilleur possible. C'est-à-dire, il y a aussi de l'UX, c'est-à-dire de l'expérience utilisateur, avec des focus group. Ça permet un petit peu de voir, nous, à force d'avoir la tête dans le guidon pendant toutes ces années, on sait plus si c'est bon, si c'est pas bon.
Ouais.
On ne sait plus. Il y a des choses qui nous paraissent évidentes, alors que quelqu'un qui n'a jamais joué, c'est pas évident pour lui. On a besoin de ce petit regard neuf de temps en temps, quand même, tu vois, d'avoir quelqu'un
Ah,
qui
on
est.
s'assure que les menus soient clairs pour les gens, qu'ils soient pas perdus devant des éléments nouveaux, etc.
Tout ce qui est tutoriel, tout ce qui est explication de mécanique, il y a besoin quand même de. Donc,
Ouais, c'est
avoir
clair,
ce
ouais.
regard neuf, on pourrait le faire nous-mêmes aussi, tu vois, mais c'est quand même. En fait, ce qui est bien en ayant fait l'Engmin, c'est que tous ces corps de métier, je les ai vus à l'œuvre, en fait.
Ouais.
Je sais comment ça marche un focus group. Je pourrais pas faire. Je peux faire un focus group, je serais pas aussi bon qu'un professionnel. Mais bon, je vois un petit peu comment tourner les questions, comment certaines règles à respecter, et puis il y a Internet
Toujours
pour le
ressort
reste, quoi.
aussi, tout ça.
Et pareil, enfin, pour tous les autres corps de métier, je vois un petit peu quand même comment ça fonctionne.
Ouais.
Mais voilà, quand tu es indépendant, faut être un touche-à-tout. Faut pas avoir peur de porter pas mal de casquettes. Et
C'est sûr.
enfin, c'est un peu, j'imagine, Pour vous aussi, j'imagine, c'est pareil. Vous êtes Corben, là, tu étais en train de me dire, ouais, voilà, je dois changer des images, je dois trouver des illustrations, etc. On est tous un peu en train, quand on est des équipes réduites comme ça, on est tous en train de bricoler en permanence, quoi.
Ah bah oui, c'est sûr. Mais après, si tu veux, on n'est pas sur les mêmes échelles de temps. Tu vois, moi, par exemple, quand je produis quelque chose, c'est un article, ça me prend un certain temps à faire, mais il est publié dans la semaine, tu vois ce que je veux dire? Alors que toi, il faut attendre 7 ans avant de
Avant.
récolter.
Ouais.
En plus, c'est même pas genre c'est sûr on va être millionnaire, quoi. Est-ce que les gens vont aimer notre jeu? C'est beau, enfin c'est beau, mais en même temps, c'est tellement dur.
Ah,
Je
c'est un pari un peu fou, hein, et puis
salue le travail, quoi.
t'as aussi le pari du tapis, hein. Une fois que t'as tout donné là-dedans, tu vas pas t'arrêter, même si on a vu pas mal
Ouais.
de projets s'effondrer. Mais bon, après, toi, par exemple, Corben aussi, bon, tu fais un article, ça te prend pas longtemps, mais t'en as 16 000. Et ce
Oui.
qui fait que ton site est ton site, c'est qu'il y a 16 000 articles et qu'il y a une communauté qui s'est créée. Nous aussi, on est dans la création de communauté d'une certaine manière aussi, tu vois. C'est le fait de savoir que tu es soutenu par des gens, ce que tu fais, c'est intéressant, ça aide beaucoup quand même.
Ouais, c'est vrai que ça c'est important, ouais.
Et puis quand tu as un éditeur aussi qui dépense de l'argent et qui compte le récupérer,
Mais du coup,
ça réconforte sur la rentabilité du projet, en fait.
Mais alors les gens, comme vous aviez créé une communauté, etc., vous leur donniez des nouvelles, enfin il y a un échange permanent en fait pendant ces 7 années avec eux.
Ouais, bien sûr, bien sûr.
D'accord. Ouais, non, mais c'est bien ça. C'est bien que les gens arrivent à rester engagés sur le projet, quoi.
Ah oui, mais après, surtout, si c'était à refaire, je le ferais différemment, hein. Déjà aussi,
Ah ouais?
parce que Internet n'était pas le même il y a 7 ans, il n'y avait pas TikTok, il y avait pas. Enfin, ça change, quoi.
Ouais, c'est vrai.
L'organique était beaucoup plus simple, je trouve. Maintenant, j'ai l'impression qu'il faut clairement avoir un budget marketing, sinon c'est
C'est
un
plus
petit peu mort,
compliqué,
quoi.
c'est plus compliqué, ouais. Après, sur le moyen long terme, il y a aussi le fait que tu vois, tu as des gens qui ont le wishlisté et qui n'ont pas encore acheté le jeu. Mais avec Steam et tout, il y aura de temps en temps des petites promos, tout ça. Donc, moi, ce que j'ai vu, c'est que les jeux indés, ils continuent quand même à se vendre. Enfin, tu vois, c'est pas comme avant où ça sort et c'est fini derrière, quoi.
Il y a des algos quand même qui permettent d'un petit peu. Et ouais, en général, je crois que tu es censé faire deux fois ta première semaine, la première année, et encore une fois ta première année au bout de 3 ans.
D'accord. Ouais, il y a des
Donc,
prévisions qui existent et qui.
après, c'est plutôt doigt mouillé, hein, j'imagine, parce qu'il faudrait vraiment avoir l'ensemble des datas, et il y a quand même de la variance d'un projet à l'autre. Le fait d'avoir un éditeur ou pas, ça change un peu la donne. C'est difficile de savoir ce que ça va donner, mais bon, écoute, en tout cas, là, on commence à pouvoir se payer un minimum, donc c'est déjà ça, quoi, c'est
Bah,
cool.
c'est très
Après,
bien.
pas mal
Bonne
d'années.
année.
Et après, alors, les étapes d'après, c'est quoi? C'est enfin, faire un nouveau jeu ou c'est maintenir celui-là, faire des mises à jour,
On a déjà
sortir?
fait des mises à jour sur ce jeu-là. On a rajouté deux nouveaux boss. On a fait deux grosses mises à jour en décembre et là récemment en mars.
Ouais.
Rémi, je te rassure, ça arrivera sur console un peu plus tard. Tu vas pouvoir te faire brosser par des nouveaux boss. Il y en a un qui est un peu plus facile et l'autre qui est un peu plus difficile. Tu m'en diras des nouvelles. Là, je t'avoue qu'en ce qui concerne Bravery and Grid, pour le moment, on aimerait bien encore faire des nouveaux boss, des choses comme ça, mais le fait est que, bon, bah, je te dis ça totalement honnêtement, nous, on est chaud, mais nouveau contenu signifie portage sur console. Portage sur console signifie payer le portage sur console, et
Ouais,
donc se
j'ai entendu.
rembourser sur les ventes. Donc, il faut que ça ait un sens.
Oui,
C'est-à-dire,
bah oui.
il faut être certain que bah, le fait de rajouter ce contenu, ça va entraîner suffisamment de ventes et suffisamment d'intérêt pour le rembourser. Sinon, ça n'a pas de sens.
Ouais.
Donc, ce n'est pas à nous de valider ça. Ça arrivera peut-être, hein, on ne sait jamais. Mais pour le moment, on peut considérer que. Après aussi, on n'a pas sorti un jeu en accès anticipé. Hein. Quand c'est sorti, il y avait déjà tout ce qu'il fallait. On a quand même fait de l'équilibrage par rapport au retour de la communauté et des utilisateurs. Mais Mais bon, le jeu est complet, quoi. À la limite, tu vois, ça serait plus ce qu'on nous demande souvent, c'est est-ce que vous allez faire des DLC
Ouais.
avec des nouvelles classes, des choses comme ça. Parce qu'il y a quand même des gameplays assez différents dans les classes et ça rend le jeu assez riche.
Ouais.
Et du coup, là, ça dépend pas forcément de
Donc c'est les
nous.
gens qui viennent vers vous et qui proposent des idées, quoi, c'est bien aussi.
C'est bien aussi, mais leur exécution dépend d'un budget éventuel pour le portage sur console qui est totalement hors de notre décision, quoi.
Et tout ce qui est crowdfunding et tout, c'est des choses que vous avez envisagées ou pour après?
Le crowdfunding, je pense que ça a peut-être son intérêt quand le jeu n'est pas sorti. Après, là, en l'occurrence, si c'était pour faire un crowdfunding pour du DLC, ça s'adresserait à des gens qui possèdent déjà le jeu.
Ouais.
Donc, il y a peut-être quelque chose à travailler là-dedans, peut-être faire de la promo sur comment tu
Alors moi j'ai déjà vu ça
faire un pack.
sur du hardware. C'est-à-dire que le hardware est sorti et pour étendre les fonctionnalités du logiciel sur le hardware, entre guillemets, pour certaines choses, ils mettent en place des bounties. Donc en gros, c'est les gens qui possèdent déjà ce truc qui disent ouais mais moi je veux que ça marche avec tel truc, tel truc, tel truc. Et en fait ils se mettent ensemble et ils mettent un peu de sous sur la table pour que ça se développe, quoi. Ils mettent ça en place. Bon, après, sur des jeux, je sais pas comment ça marcherait, mais sur ce genre de truc, c'est possible, quoi. Enfin, j'ai déjà vu faire sur d'autres trucs, quoi.
Et si c'était à refaire, peut-être que j'aurais fait un Kickstarter pour le jeu au final, tu vois.
Oui, 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 oui. Oui, j'imagine.
Là, en post-launch pour un DLC, c'est intéressant, il faudrait peut-être y réfléchir, mais c'est pas quelque chose sur lequel on
Ouais.
se penche énormément pour le moment, quoi.
Donc après la suite ça va être quoi un nouveau jeu alors?
Bah là, ouais, en effet, on brainstorm un petit peu, on
Ah,
essaie
c'est
de
bien.
réfléchir sur ce qu'on pourrait faire. Je t'avoue que ça fait bizarre de plus être sur ce projet pour le moment, quoi. Ça,
Ah bah
bah,
ouais, j'imagine,
on est un peu perdu,
ouais.
forcément, quoi.
C'est
Mais
comme si tu recommençais de zéro, quoi. C'est sur un
il y a
nouveau
un peu
truc.
de ça, mais il y a aussi le côté rafraîchissant de dire, ah ouais, en fait, je peux faire ce que je veux et ça peut être totalement différent aussi, quoi.
Oui, c'est vrai. C'est vrai.
Ça m'amène à autre chose, c'est que voilà, si par exemple vous partez sur un nouveau jeu, peut-être qu'il sera en full 3D, peut-être que graphiquement ce sera complètement différent, peut-être que voilà, il y a plein de choses qui peuvent changer. Et je me demandais sur quelle techno vous étiez parti, sans forcément entrer dans les détails ultra techniques, mais par exemple, est-ce que vous avez utilisé un moteur de jeu
Bien
existant
sûr.
et lequel, etc. Comment vous, quand vous vous êtes dit, ça y est, on démarre, là, on a notre game design à peu près, vous partez pas de rien, vous utilisez quoi et comment ça s'est passé à ce niveau-là?
Bah, c'est très simple, on utilise Unity. Alors à l'époque, là, la dernière version, on utilise Unity 2019. Vu qu'on a commencé, je te laisse deviner qu'en 2015, c'était pas Unity 2019. Mais moi, je suis pas trop versé dans le code, mais disons qu'en tout cas, migrer à la nouvelle version du moteur de jeu à chaque fois, c'est pas sans embûche, quoi.
Ouais, c'est ce qu'on m'a dit, ouais.
Donc tu le fais quand t'as pas le choix.
Ouais, bah
Et moi, ce qui nous concerne, on l'a fait parce que justement il y avait des améliorations pour le netcode et le fait de passer en 2019, ça a beaucoup aidé les équipes de portage console. Donc ça a fait baisser les coûts des portages console à ce niveau-là. Pour le son, on utilise un moteur de son qui s'appelle FMOD, qui est un peu un standard et qui est très puissant. Bon, j'ai pas de prétention sur comment l'utiliser, mais en tout cas, c'est très puissant et assez simple d'accès. On a utilisé bon, des petits plugins, un petit peu des plugins pour utiliser les joypads, les trucs comme ça. Enfin, mais c'est des plugins Unity, c'est des trucs très mineurs, quoi. Le reste, c'est juste bah, Théo qui tape sur un clavier, moi qui suis soit sur une tablette graphique, soit à la souris.
Et justement, pour ton pixel art, tu utilises quel logiciel ou pour faire les animations?
Alors, bah, j'utilisais une version de Photoshop. Après, là, récemment, ça dépend pourquoi, mais Sprite aussi, qui est un logiciel assez connu dans le domaine du pixel art. Mais c'est très variable, il y a un petit peu de tout quand même. Hein. Je veux dire, il y a certains trucs des effets qui sont pas forcément en pixel art, qui sont un peu plus HD, ça vient plus soit directement des générateurs de particules au sein d'Unity, soit des animations déjà faites. Il y en a que certaines que j'ai dû faire sur After Effects ou des choses comme ça, quoi.
Ouais. D'accord. Ah oui, puis après vous les intégrez.
C'est des outils, hein, comme il disait Corben, c'est des outils. Toi, tu as une chose en tête et tu te dis comment la réaliser le plus simplement possible. Donc c'est... Par exemple, certains gros boss, ce sera des bases 3D que je fais sous Blender.
Ah ok, ouais.
Donc, tu vois, il y a un peu de tout, faut un peu toucher à tout.
Et est-ce qu'il y a des moments dans tout le processus de développement du jeu, vous avez dû faire des concessions, on va dire, un peu techniques, enfin, en tout cas des concessions sur ce que vous aviez en tête par rapport à ce que vous étiez, enfin, ce qu'il y avait de dispo au niveau logiciel, ou alors ce que vous étiez capable même vous de faire à deux, quoi. Ou est-ce que ça a roulé, vous aviez une idée, vous l'avez faite de A à Z et ça a roulé, quoi.
Voilà, c'était plutôt la deuxième option, c'est-à-dire que dès qu'il y a eu une idée, déjà ça a été organique, donc les idées sont venues quand même au fur et à mesure.
Oui.
Et dès qu'il y avait un truc qui paraissait pas viable en termes de pipeline, il y en avait un des deux qui dit bah non, ça va être compliqué et ça allait pas plus loin. Donc à ce niveau-là, ça a plus été un long cheminement de brainstorming pour équilibrer le jeu. En fait, ouais, ce que je voulais dire, ce que je dis souvent, c'est déjà en 2017, quand l'éditeur est venu, tu peux trouver peut-être des vieilles vidéos sur YouTube, le jeu était déjà là en fait. Il y avait déjà des classes jouables, pas toutes, mais une bonne partie.
Ouais.
Mais tu pouvais jouer au jeu et dire ouais, ok, ça fonctionne. Et le jeu a pas tant changé que ça depuis. Mais
aussi, c'est affiné, ça s'est amélioré, tout ça.
C'est du contenu, c'est du peaufinage, du polish. Mais au final, comme on dit, voilà, dans un jeu, c'est pas faire 90% qui est difficile, c'est faire les 90% restants.
Oui.
C'est que le polish, l'équilibrage et tout le reste, tu peux avoir un jeu qui paraît nickel. T'as même pas mal d'exemples de jeux qui sont jamais sortis, mais quand tu les vois, ils étaient déjà à 90% et le dev s'est arrêté pour X raisons, parce que le studio il y a plein de raisons, tu vois. Des fois c'est des pépites qui ressortent et on se dit mais pourquoi c'est pas sorti, parce qu'il manquait les 90% après les 90%, quoi.
Les 10% ou les 90%?
Les 90%, parce que c'est comme
les 90% représente 90%,
voilà.
C'est ce qu'on dit souvent dans les projets informatiques en général, d'ailleurs.
Oui, c'est vrai.
C'est là l'étape de finalisation, de fignolage, de
Eh ben, c'est pas simple, hein. Mais bravo, hein. C'est bien d'avoir été jusqu'au bout, parce que déjà pour tout ce genre de projet, aller jusqu'au bout, déjà c'est un exploit en soi. Donc c'est beau, c'est bien.
Bah, j'en ai vu des projets qui sont pas allés à terme, hein, ça c'est certain.
Ah bah quoi. Ouais, c'est sûr, c'est sûr. Et toi Rémi, toi qui as vraiment joué au jeu,
oui.
Ça va, tu kiffes à fond en tant que gamer, en tant que joueur? Moi, je l'ai pas testé encore, mais...
Oui, c'est vrai. Non, il est chouette, c'est une bonne surprise, parce que moi, déjà, j'aime bien les roguelites et les machins comme ça, les jeux de baston, la plateforme, et c'est vrai que c'est un mélange qui, finalement, est pas si... pas courant, même, du tout, d'avoir tous ces éléments-là. Et comme tu as parlé de Gauntlet tout à l'heure, là, qui est une de mes références aussi, et j'aimais bien ce côté, on se retrouve entre potes, on peut jouer à 4 sur le même écran, ou presque, et puis on désingue et puis on se tire la bourre pour récupérer de l'or ou des expériences ou des machins et tout ça. Et je trouve qu'on a des dynamiques un peu similaires, mais en plus moderne et puis en plus baston, plus cool à ce niveau-là. Une vraie, comment dire, avec les différentes classes, tu t'entraides vraiment, quoi. Il y en a un qui peut vraiment avoir un rôle par rapport aux autres. Là où certains jeux sont un peu plus basiques, où final, chacun fait un petit peu ce qu'il veut. Ce qui n'est pas une mauvaise chose en soi, mais je trouve que c'est bien d'avoir un vrai aspect coop où il y en a qui dit « bah attends, je me mets là, je les bloque, toi tu tires de loin, lui il fait ça ».
C'est un peu un défi du jeu, parce que le jeu est totalement jouable en solo. Je ne sais pas si tu dois quand même avoir plus d'heures dessus en solo qu'en coop,
oui,
j'imagine.
Clairement. Ouais.
Et il y a pas mal de concessions qui sont faites. Par exemple, tu vois, il y a des gens qui ils jouent en solo, ils me disent « Mais tiens, là, je prends un gant, je m'équipe avec un gant, je dois poser l'autre parce que j'ai qu'un seul slot. » pourquoi je peux pas le vendre pour avoir des thunes ou quoi que ce soit? Bah là, tu te dis, bah oui, mais en multi, par contre, si tu commences à faire ça, t'as toujours le joueur toxique qui va venir, qui va prendre tous les objets en premier et vendre tous ceux dont il sert pas et laisser tous les autres à poil, tu vois. Et c'était une problématique auquel, bon, après, c'est évident dit comme ça, mais c'est pas le même équilibrage, un jeu solo et un jeu multi. Et quelque chose qu'on n'avait pas forcément planifié énormément avant, c'est qu'on a dû se brainstormer pas mal pour trouver à chaque fois des mécaniques qui fonctionnent en multi et en solo sans trop privilégier un mode aux dépens de l'autre.
Ouais.
On a fait un jeu multi qui devait toujours être viable en solo et toujours. Alors, même si niveau marketing, on le pousse un peu en multi parce qu'on sait que c'est ce qui nous sépare beaucoup de la concurrence par rapport à un Dead Cells ou un Hades ou d'autres choses comme ça. Qui sont d'excellents jeux, donc forcément, on met ce qui nous fait tirer notre épingle du jeu. Mais par contre, ouais, c'était un petit casse-tête de trouver des mécaniques où ça doit fonctionner tout seul, ou à deux, ou à quatre.
Ouais.
Ah non, là-dessus, c'est bien. Et d'ailleurs, j'étais surpris la première fois que j'avais lancé le jeu. Enfin, la première fois, c'était en coop. Et après, je suis revenu sur la partie parce qu'on l'avait pas terminé. Je me disais, bah, je vais lancer une partie solo à côté. Et en fait, non, c'est la même partie, mais que tu peux continuer tout seul. Il y a vraiment un côté un peu plug and play, etc., qui est cool, quoi. Si tu as un pote qui arrive alors que tu es en train de jouer, bah, il peut directement rejoindre la partie.
Oui, après,
Revenir au truc et tu le rajoutes, quoi.
oui, c'est vrai, c'est vrai. C'est vrai qu'en faisant le continue, oui, c'est vrai que c'est possible. Faudra aussi vraiment que peut-être je te file une clé Steam que tu puisses tester un petit peu en multi en ligne avec des
Oui,
randoms
ça
parce
par contre, j'ai
que
pas testé avec des randoms.
on a quand même une player base un peu plus conséquente sur Steam. Il faut
Ouais.
savoir que bon, c'est toujours un peu difficile quand même d'avoir des gens qui jouent à ton jeu en permanence tous les jours. Ou dès que tu te connectes, il y a toujours un serveur de dispo. Ça dépend de la base de joueurs. Et il faut qu'elle soit énorme. Parce que tu te rends compte que les seuls jeux qui peuvent faire ça, c'est des FPS compétitifs en ligne, en général, qui sont free to play, plus ou
Ouais.
moins. Parce que le principe, c'est que quand tu as un jeu qui a besoin d'une énorme communauté, il faut qu'il soit gratuit avec des microtransactions ou un autre business model.
Et oui,
Nous,
mais d'ailleurs, je te coupe un petit peu, mais
vas-y.
vous avez sorti aussi la démo qui est jouable en ligne et tout. Donc ça permet aussi de tester et de voir, d'avoir peut-être aussi, il y a peut-être une communauté sur la démo, je sais pas, hein, si ça.
Exactement. Bah, la démo, il y a une communauté, mais bon, faut pas. Il y a quand même beaucoup plus de joueurs sur le vrai jeu que sur la démo, donc tu auras plus de chances de trouver des. Alors que pourtant, au début, quand on a sorti la démo, on se disait, est-ce que ça va nuire au jeu? Est-ce qu'il y a des gens qui pourraient juste jouer à la démo et se dire, ah, ça me suffit, je vais faire la démo en boucle et je m'amuse bien avec ça, surtout en multijoueur, etc. Mais non, la démo, nous, tu sais, à la base, comme je disais, j'ai le même âge que Corben. Moi, j'ai été élevé à la shareware de Doom sur PC, quoi, le
Oui,
truc où tu. T'as le premier épisode qui est gratuit, et si ça te plaît, t'achètes la version complète. Donc je pense que on a un peu perdu la culture de la démo où bah, ton jeu, bah, t'as confiance en lui, tu mets là et les gens ils testent et voilà quoi. Et à tes souhaits, on
le
l'a pas
WAD.
entendu, mais en tout cas je l'ai vu. Mais oui, je pense que même si Steam a une politique de remboursement assez généreuse, c'est-à-dire que tu as 2 heures de jeu ou 15 jours de possession dans ta bibliothèque avant de pouvoir demander le remboursement d'un jeu, même si Steam est généreux, c'est quand même autre chose de passer à la carte de crédit, d'acheter le jeu et après de faire une demande de remboursement. C'est un petit peu contraignant. Alors que là, une démo, en général, bah, tu testes et tu seras pas déçu. Si tu as aimé la démo, tu aimeras le jeu.
Et alors pour les gens qui nous écoutent, il faut savoir que là je suis sur la page de Steam et il y a une offre spéciale, une promotion qui prend fin dans 4h21 minutes
C'est vrai, j'ai oublié d'en parler,
de
comme quoi
moins
tu touches.
25%, c'est-à-dire que ton jeu il passe de 19,99 à 14,99. Non mais c'est une promotion à ne pas manquer, les amis.
Ben, on n'a jamais été aussi bas, en effet. On a déjà fait du moins 20%. Mais là, à moins 25, en effet, c'est plutôt pas mal.
Il y a même des bundles après.
Ouais, aussi, ouais. Mais pour information, pour les développeurs éventuels qui nous regarderaient là-dessus, il faut savoir que quand tu as quelqu'un en wishlist, si tu veux que Steam leur fasse un petit poke, un petit nudge et leur dise coucou, il y a ce jeu-là qui est en promo, c'est à partir de 20% que ça se déclenche.
Ok.
D'accord. Ouais, faut le savoir.
D'accord, donc un petit 5-10%, ça.
La wishlist ne seront pas, sera pas avertie. Bon, bah, ça peut faire son effet aussi, mais bon, ça marche mieux quand tu as tes wishlists qui sont activés quand même.
Bah ouais, c'est quand même. Ouais, forcément.
Bon, bah, merci pour le petit coup de pub, hein. C'était pas prévu, mais c'est toujours
Non,
bienvenu.
bon,
Hein,
écoute,
si...
j'étais dessus là, donc je regardais en même temps, je me dis, tiens.
vrai,
Donc,
c'est
je
vrai.
pense que le jeu mérite à être connu parce qu'on a quand même des bonnes reviews dans l'ensemble et. Je pense qu'on n'a surtout pas rencontré notre public comme on le devrait, tu vois. Je pense que un gros streamer ou deux qui passe le jeu, ça pourrait avoir son effet,
Un
quoi.
petit truc, ouais.
Tu les as contactés?
Ouais, bien sûr. Moi,
Ah.
j'ai fait mon boulot, tu vois.
Ouais.
Mais bon, ça, même des fois, j'ai même poussé jusqu'à en parler. Alors c'est toujours à faire avec des pincettes, mais tu vois, à mentionner si ça s'y prêtait un peu sur des streams ou des trucs comme ça, tu vois.
Oui.
Mais bon, déjà, bon, je suis pas forcément hyper aguerri au Twitch game en ce qui me concerne.
Ouais. Ouais.
Je montre pas souvent ma tête sur caméra, je fais des exceptions quand ça m'inspire. Et
Merci.
du coup, bah, c'est des gens qui sont très occupés. Quand normalement de choses à jouer, ton jeu, bah, tu peux leur envoyer une clé, ils en reçoivent plein tous les jours. S'ils n'ont pas le
Ouais.
temps de regarder, pas le temps de se dire, ah tiens, en fait, ça pourrait me plaire. Surtout qu'en plus, il y a vraiment un potentiel multi intéressant. Pour certains, t'as des streamers qui jouent souvent.
Ouais, avec leurs potes en ligne et tout.
Voilà, tu vois, enfin, en tout cas, qui s'organisent, tu vois, tu prends des. Je crois que tout ce groupe de JDG, Antoine Daniel, etc., ils font souvent des trucs où ils sont en train de jouer à 4 à des jeux marrants en ligne.
Ouais.
Ou même d'autres, c'est toujours. Mais c'est un peu compliqué en plus, puisque. Bon, là, je te parle de streamers français, et je crache pas dans la soupe, c'est super la France et tout, mais on va pas se voiler la face. L'écrasante majorité de nos ventes, elle se fait aux États-Unis, enfin en
Oui.
Amérique du Nord, et elle se fait aussi en Asie. Il se trouve que, je sais pas, notre jeu a bien parlé aux joueurs asiatiques. Je crois que ça leur rappelle un peu un jeu qui s'appelle Maple Story,
Ah, oui.
et qui est du coup coréen à la base, et c'est leur Madeleine de Proust, faut croire.
Ouais.
Enfin, j'ai vu plusieurs streamers qui disent, tiens, c'est pas Maple Story, mais c'est cool.
Mais vous avez pas fait exprès, en fait, ça, c'était le
Non,
hasard, quoi.
non. Enfin, c'est un hasard pas tant que ça, parce que moi, j'aime beaucoup le pixel art de Maple Story, et même si j'ai pas joué énormément pour ma part, il y a des trucs où clairement, je me suis dit, en termes de VFX, pixel art, c'est très propre ce qu'ils font, et ça m'a parlé. Et peut-être aussi un poil en termes de proportion de personnages. J'imagine que c'est un petit peu le genre de chibi un peu qu'ils ont en manhwa coréen, quoi. Mais c'est un hasard peut-être, en tout cas ça fait plaisir. Ça fait plaisir
Bah
quand
ouais,
tu
non,
vois
c'est cool.
des streamers que tu connais pas coréens qui ont 1000 viewers et qui jouent à ton jeu, tu fais ah
Bah
cool.
ouais, c'est vrai que c'est classe. Vrai que c'est cool. Bravo.
Ouais, bravo, bravo. Et ouais, on va pas trop tarder à terminer. Est-ce qu'il y a un passage, un truc que tu aurais bien aimé raconter sur le développement du jeu, ou hein, je sais pas, hein, comme tout à l'heure, Corben demandait si il y a eu des passages techniques qui étaient compliqués
Est-ce
ou
qu'il y a
quelque
des
chose.
easter
Mais est-ce qu'il y a, ouais,
eggs?
par exemple, ouais, des easter eggs, des trucs cachés ou des trucs que t'aimerais raconter et qui sont un peu dévoilés ou
Alors,
rarement
comme ça,
évoqués?
j'aurais peut-être dû me préparer un peu plus avant.
Bah non, si t'en
J'ai
as
rien
pas, hein,
qui me vient comme ça. Après, en termes d'easter egg dans le jeu, bah, tu as dû t'en rendre compte un peu, Rémi, il y a énormément de références à beaucoup de choses, on va dire peut-être sûrement de l'univers un peu geek. Tu verras sûrement pas mal de références à Magic dans le nom de certaines capacités. Je sais pas si tu tapais du carton ou pas, mais.
Si, dans les vertes là, j'ai vu c'était quoi? Moi, je vais ça va pas me revenir, mais un truc que je m'étais dit aussi dans les capacités la vie là, dans les il y avait une rêve du genre.
T'as peut-être vu une force de la nature ou des choses comme
Voilà, c'est
ça.
ça. Force de la nature. Qui était une carte que j'avais, hein.
Ah bah ouais, c'était la douce époque. Quatrième, cinquième édition. Mais non, je pense que ouais, si t'es geek, t'as pas mal de trucs à voir dans les achievements, dans les. Dans la.
Les
Non,
petits trucs là, ouais.
ouais.
Eh oui, c'est vrai que j'ai pas les achievements puisque je suis sur la Switch, alors.
Ah, normalement, ils y sont aussi, hein.
Ah ouais? Ah bah tu vois, ça je savais pas qu'il y avait les achievements sur Switch.
Ou alors, moi, je t'avoue, j'ai pas trop joué sur Switch vu que
Ah non, mais les achievements qui sont intégrés dans le jeu, oui, pardon. Oui. Si, 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 il y a plein de petits trucs qu'on débloque.
Ah oui, puisque de toute façon, t'en as besoin pour débloquer les cartes de
Exactement,
tarot,
oui, non, je pense
etc.
que.
Donc,
Ouais. Je pensais au succès intégré à Steam, pardon, je sais pas pourquoi c'est ça qui m'est venu en premier.
bah, t'as raison, sur Steam, c'est la même chose, hein. Quand tu débloques un achievement in-game, ça débloque un achievement sur Steam, donc,
Bah ouais.
Et oui,
mais
il y
en
en a un
effet, sur
paquet.
Switch. Switch, ils doivent être dans une vision un peu plus familiale, un peu moins compétitive, peut-être, je sais pas.
Oui, et puis bah c'est des fonctionnalités en plus et leur service en ligne étant plus léger, ils ont moins de trucs du genre, quoi. Ouais, c'est clair, c'est clair. Ouais, et puis par rapport à Team 17 et tout ça, est-ce que ils vous ont déjà parlé de vous dire, je sais pas, le prochain jeu, on est chaud. Enfin, est-ce qu'il y a des discussions où ils s'impliquent déjà à vous dire, tiens, ça pourrait être bien de partir là-dessus, là-dessus, là-dessus? Ou est-ce que vraiment c'est vous faites votre truc et puis vous leur en parlerez quand.
Je pense que de leur part, ils ont quand même un certain intérêt, tu vois. Je veux dire, ça s'est bien passé avec eux, des deux côtés. Nous, on était contents de ce qu'ils nous ont proposé et eux étaient contents de travailler
Ouais.
avec nous. Donc, forcément, il y a toujours, quand on fait un post-mortem avec eux, ils sont forcément un petit peu en mode, alors, c'est quoi la suite pour vous,
Ouais.
qu'est-ce que vous comptez faire? Et forcément, ouais, on verra comment ça se passe. Déjà, on va brainstormer de notre côté, on va voir si on trouve ce qui nous intéresse. Et puis voir si ça correspond à leur catalogue par la suite, si on a envie de remettre le couvert. Mais c'est trop tôt pour en parler là actuellement, quoi. Et même si je faisais quelque chose, je sais même pas si tu vois, je ne serais pas soumis à des clauses de confidentialité pour pouvoir en parler.
C'est
Donc,
sûr, c'est sûr.
des milieux assez secrets de jeux vidéo.
Ouais.
Quand ça parle d'argent, on n'a pas trop le droit d'en parler. Hein. Que
Bah ouais.
ça soit les ventes Steam, t'as pas trop le droit d'en parler vis-à-vis de Valve. Et puis bon, les contrats avec les éditeurs, forcément, ça ne concerne que l'éditeur et le studio de dev, quoi.
Attention.
Ah, ça vaut cher l'information de nos jours.
Ouais.
C'est le nerf de la guerre.
Bah oui, comme tu disais, après ils font des stats et des projections et des machins
Bah ouais,
et ils dévoilent pas
clairement.
tout, quoi. Ouais. Qu'est-ce que j'allais dire? Oui, s'il y a des gens qui veulent voir un petit peu, en savoir un peu plus sur le jeu, bah, on avait fait, enfin, j'avais écrit un petit test du jeu sur le blog de Corben, avec aussi une petite interview d'Ivan, donc des questions parfois peut-être un peu plus techniques, etc. Je vous invite vraiment à le lire si vous voulez creuser. Donc le jeu s'appelle Bravery and Greed, donc comme la bravoure et la cupidité en anglais. N'hésitez pas à essayer de trouver cet article chez Corben. Ça vous redonnera une petite vision du truc. Et puis c'est vrai qu'il est en promo pendant quelques heures là. C'est sympa.
Dépêchez-vous vite.
Et
Promo spécial Webosor.
je tiens à préciser que c'est pas de la pub machin machin ou quoi. En fait, moi j'ai découvert le jeu, j'ai bien aimé, j'ai vu que c'était un studio français et du coup j'en ai
T'es
profité
en train de
pour.
dire que Ivan va pas nous donner d'argent là pour l'émission et tout ça? C'était pas prévu comme ça là. C'est quoi ce
Ah, moi je
délire
suis
là?
pas au courant. Ah, il fallait négocier ça avant alors.
Ah non, mince!
Non, mais je préfère préciser parce que c'est vrai qu'on a fait un article sur le blog, là on fait un machin et tout, donc
Oui,
voilà,
oui,
sachez
oui.
que
Non, c'est vrai. Ouais.
c'est juste un petit coup de cœur et puis du
Voilà,
coup
on
on s'est
n'habite pas à Dubaï,
contacté.
donc on fait encore des trucs pour le plaisir.
Ah, moi non plus, j'habite pas à Dubaï.
Dubaï d'Angoulême, c'est ça?
Ouais, c'est ça.
Aïe, aïe, aïe. Mais en tout cas, merci beaucoup, Ivan, d'avoir pris le temps de discuter avec nous, de détailler un petit peu tout ce processus et tout ça. C'est super intéressant. J'espère que ça a plu à toutes les personnes qui étaient dans le chat. On a répondu en général plutôt en direct via le texte. Hein. Donc voilà, j'espère qu'on n'a rien loupé. Je vais vous laisser conclure, mais dans tous les cas, on se retrouve nous la semaine prochaine pour une nouvelle émission avec Corben. Et Corben, dans quelques minutes, il est sur sa propre chaîne,
Yes.
CorbenFR, tout attaché sur Twitch.
Twitch et
Et.
même TikTok maintenant, j'ai compris comment on lançait un live en même temps, donc je fais aussi
Oh,
TikTok, ça
magnifique.
y est, c'est fou,
Oh,
c'est fou.
magnifique.
La haute technologie.
Ça, c'est beau.
Et Ivan, toi, on peut te retrouver où si les gens ont envie, je sais pas, de te
Ah,
contacter?
moi, je suis un peu plus timide, hein. Je stream pas ou on me retrouvera pas personnellement. On me retrouvera sur le compte de Bravery and Greed. Hein. C'est toujours moi qui m'occupe, entre guillemets, du community management. Donc, sur notre Discord, ça sera moi. Sur Twitter, ça sera moi. Sur Facebook, ça sera moi.
Ok.
Mais c'est vrai que je suis un peu timide, hein, quand même par rapport à vous.
Ça va, ça va. Et tous les liens sont sur c'est bravelyandgrid.com, je crois.
Ouais, ou même sur la page Steam.
Ouais, voilà.
Il y a un petit peu tout ce qu'il faut, quoi.
Quand vous commencez à taper Bravery, vous aurez normalement à peu près tout qui apparaît.
Si on est bien référencé, ouais, ça devrait aller.
Hop là. Oh, attends, il y a quelqu'un à bannir. Bref, bah, je vous laisse conclure. Merci encore d'avoir accepté l'invitation. Et moi, je dis à la semaine prochaine, tout le monde, des gros bisous.
Ouais, gros bisous à tous. Merci encore, Ivan. Et puis, bah, à la semaine prochaine. Allez, ciao, voilà, tout le monde.
Merci de m'avoir reçu. Et puis, je sais ce que je vais regarder juste après. Je vais aller sur ta chaîne principale, Corben.
Oh, la pression. Ça marche. Bon, bah, tout à l'heure, alors. Allez, à
salut,
plus.
Les gars.
À plus, tout le monde. Ciao.